Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce lundi ensoleillé, mais pas chaud chaud, 19 mars, et c'est demain qu'arrive le printemps. Hélène Denis qui vous accompagne et qui salue vous, chers auditeurs, ainsi que mon collègue Jean-Sébastien Laliberté. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Comment allez-vous?
Fort bien, hâte oui. Au printemps, hâte à la chaleur surtout.
Oui, oui, bien ça s'en vient. Il faut être patient, mais ça s'en vient. Alors, est-ce qu'il y a des événements intéressants à souligner en ce 19 mars ou des anniversaires aussi?
Mais oui, nous sommes en ce 19 mars, la journée internationale de la cuisine italienne.
Oh!
On est à la 11e ou 12e édition de cette journée internationale et chose quand même assez rare, pour cette année, on a choisi de déplacer la date de la journée internationale.
Ah ouais?
Avant ça, on fêtait ça à la mi-janvier, mais depuis 2018, on souligne ça le 19 mars en l'honneur d'un très grand chef italien dont son anniversaire tombait un 19 mars.
D'accord, j'allais faire une blague un peu plate, mais le chef italien, est-ce qu'on le nomme dans l'information que vous avez?
On le nomme, je n'ai pas son nom sous les yeux, mais ce n'est pas ni un Gattuso, ni un autre nom très connu. Donc, avec une grande réputation, j'imagine, auprès des connaisseurs.
Oui, mais, oui. Alors, on va manger italien en cette journée italienne.
Absolument, j'ai justement du spaghetti pour dîner.
Ah, oh, bon appétit à l'avance.
19 mars, en 1314, Jacques de Molay, grand maître des Templiers, est brûlé vif sous le roi Philippe IV le Bel. 19 mars 1796, en France, instauration de la liberté de presse. 1895, tournage du premier film, le film La sortie de l'usine Lumière à Lyon, par bien sûr les frères Lumière. 1931, un 19 mars, l'État du Nevada légalise le jeu, l'État du Nevada étant l'État dans lequel on retrouve bien sûr...
Las Vegas,
cette capitale du gambling.
Et du mariage.
et du mariage express dans une chapelle minute par Elvis Presley. 1937, à Ottawa, adoption d'une loi interdisant de prendre part à la guerre civile d'Espagne. Cependant, des milliers de Canadiens partisans de la République s'engageront quand même dans le régiment Mackenzie-Papineau pour aller combattre les fascistes. 1941, les États-Unis et le Canada signent le pacte de la voie maritime du Saint-Laurent. Les travaux seront complétés en 1959. 1964, au Québec, une loi crée le ministère de l'Éducation, dont Paul Guérin-Lajoie sera le premier titulaire.
Paul Guérin, mon cher.
Paul Guérin. Il n'y a pas de U
non,
du tout.
Non.
Merci, merci.
Ça me fait plaisir.
1975, toujours un 19 mars, face aux communistes. Oui, les Sud-Vietnamiens évacuent la région des Hauts-Plateaux. Saigon tombera 6 semaines plus tard. 1996, à Manille, plus de 150 jeunes meurent dans l'incendie d'une discothèque. Et 2004, toujours un 19 mars, le Québec devient la troisième province à autoriser les mariages entre personnes de même sexe après l'Ontario et la Colombie-Britannique. Deux anniversaires en ce 19 mars, anniversaire de naissance du premier ministre du Québec, Lomer Gouin. Et également, anniversaire de naissance du médecin Henri Morgenthaler, pionnier du droit à l'avortement au Canada. Donc, M. Gouin, né un 19 mars 1861, et Dr. Morgenthaler, 1923.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la presse de ce 19 mars, exclusif Grand Prix du Canada, travaux sur le circuit Gilles Villeneuve, 28 millions de plus que prévu. Les soumissions reçues par la Ville feraient grimper les coûts à au moins 76 millions au lieu des 48 millions budgétés. Reportage, un tour d'ambulance, incursion dans un univers où chaque seconde compte. La chronique de Mylène Moisan, Léa Rose aura toujours un an. La chronique de Marie-Claude Lortie, juste pour rire, deux points, le gâchis. Pause famille, adolescence, j'ai 15 ans, je vois un psy, le sujet est moins tabou, mais, point de suspension, témoignage au pluriel. « C'est un article de Vincent Brousseau-Pouliot. Au rythme actuel, les travaux de rénovation du circuit Gilles Villeneuve effectués en vertu de l'entente avec la F1 ne coûteront pas 48 millions de dollars, mais au moins 76,2 millions, a appris la presse. Il s'agit d'un écart de 59 % par rapport à la somme annoncée publiquement par la Ville de Montréal en décembre 2015 pour la construction de nouveaux paddocks pour la F1. Dans l'entente initiale de 2014, la construction des paddocks devait coûter 32,6 millions, puis le coût a grimpé à 48 millions en décembre 2015. La Ville de Montréal assume 30 millions comme prévu et le gouvernement du Québec paie les 18 millions supplémentaires. Or, en se basant sur les résultats d'un appel d'offres en cours pour la réfection des paddocks, la facture totale des rénovations au circuit Gilles Villeneuve en 2017 et 2018 devrait plutôt être d'au moins 76,2 millions, selon des documents publics obtenus par la presse. Environ 16 millions de dollars iront à la rénovation de la zone « hospitalité », entre guillemets, une zone adjacente au paddock qui accueille les bureaux des équipes de F1. Tout comme les paddocks, cette zone doit être rénovée en vertu du contrat des gouvernements avec la F1. Ces trois contrats de 16 millions ont été accordés le 8 novembre dernier lors de la dernière séance du comité exécutif de l'administration Coderre. Mais le principal poste de dépense demeure la rénovation et la construction des garages et des paddocks. Il faut faire l'évaluation de ce qui a été budgété versus ce qui nous sera présenté dans les résultats des soumissions, dit Marc-André Viau, directeur des communications de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. L'administration Plante prendra une décision finale en comité exécutif. La Société du parc Jean Drapeau, la société paramunicipale responsable du dossier, analyse actuellement la conformité des offres déposées et soumettra son analyse à la Ville de Montréal cette semaine. Plus de 140 millions de personnes pourraient migrer d'ici 2050 dans trois régions du monde en développement pour fuir les effets du changement climatique tels que la baisse de la production agricole, la pénurie de l'eau et la hausse du niveau de la mer, prévient la Banque mondiale. Dans un rapport publié lundi, celle-ci a chiffré à 86 millions les migrants climatiques potentiels en Afrique subsaharienne, à 40 millions en Asie du Sud et à 17 millions en Amérique latine si rien n'est fait d'ici cette échéance. Chaque jour, le changement climatique devient une menace économique, sociale et existentielle plus forte, a commandé Kristalina Georgieva, numéro 2 de la Banque mondiale. Nous le constatons dans les villes confrontées à des crises de l'eau sans précédent, dans les régions côtières expérimentant la vague de tempêtes destructives, dans les régions agricoles qui ne peuvent plus produire de cultures essentielles. Elle souligne que de manière irrésistible, le changement climatique est devenu un moteur de migration, contraignant des individus, des familles et même des communautés entières à chercher des endroits plus viables. On ne s'explique pas ce qui est arrivé. L'acrobate Yann Arnaud est mort à Tampa samedi soir après avoir chuté durant la présentation de son numéro de sangle aérienne lors d'une représentation du spectacle Volta du Cirque du Soleil. L'athlète d'expérience, l'aîné de la troupe sur ce spectacle, a fait une chute d'environ 5 mètres sur la scène devant les spectateurs. La force de l'impact a été amplifiée car il était en mouvement, de retour vers son partenaire de scène dans les airs. Le numéro fatal était un ballet aérien entre deux athlètes qui se retenaient et se dirigeaient par des sangles souples. L'artiste, fin trentaine, était un gymnaste d'origine française qui habitait à Miami. Il laisse dans le deuil sa conjointe et sa petite-fille de 2 ans qui étaient toutes deux à Tampa au moment du drame, puisqu'elles accompagnaient l'artiste en tournée. Santé Canada se penchera sur l'avenir de la vente de boissons sucrées fortement alcoolisées comme le Fuck Top et le Four Loko. La ministre de la Santé du Canada annoncera aujourd'hui qu'Ottawa s'engage à limiter la teneur en alcool ou le format de ses boissons mélangées. La ministre a demandé à Santé Canada d'organiser rapidement une rencontre avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour discuter de publicité, de commercialisation et d'étiquetage afin de réduire les risques associés à ces produits, dit Thierry Belair, attaché de presse de la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor. Le service de police de la Ville de Montréal aura recours aux plongeurs pour fouiller la rivière des Prairies afin de retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouakou. Les tests effectués hier démontrent que la rivière est sûre. Pendant ce temps, l'enquête de la police continue et en début de soirée hier, les enquêteurs avaient reçu plus de 247 informations du public depuis l'annonce de la disparition de l'enfant. Par ailleurs, le boxeur Adonis Stevenson a fait don de 15 000 $ à la famille du garçon disparu depuis près d'une semaine. Les policiers ont fait du porte-à-porte et du ratissage de cours arrière dans l'arrondissement d'Antique-Cartierville, aux alentours de l'endroit où le garçon a été vu pour la dernière fois. Ils ont également revérifié les berges à l'aide de véhicules tout-terrain hier. Vladimir Poutine a été réélu hier pour son quatrième mandat à la tête de la Russie, fort d'un score aux allures de raz-de-marée, toutefois marqué par les accusations de fraude de l'opposition. Alimenté par le conflit syrien, la crise ukrainienne ou les accusations d'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump, la confrontation Est-Ouest s'est encore accentuée, alors que Londres accuse Moscou d'avoir empoisonné un ex-espion russe au Royaume-Uni, ce que Vladimir Poutine a qualifié hier de « grand n'importe quoi ». Syrie. Le drapeau turc flotte désormais sur la ville syrienne d'Afrin. Après environ deux mois d'offensive, la Turquie et ses alliés syriens ont rempli leur mission en chassant de cette région frontalière une milice kurde d'Ankara considérée comme terroriste. Les Kurdes de Syrie ont réagi en promettant de se battre pour la libération de toute la région d'Afrin, cible depuis le 20 janvier d'une offensive de la Turquie qui avait pour but d'en déloger les unités de protection du peuple. Cette milice, considérée par Ankara comme une menace à sa frontière, a été l'alliée de Washington dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique. Les combats ont donné lieu à l'exode de milliers de civils. Les représentants d'une pièce de théâtre qui devait débuter hier dans le cadre du Downtown Contemporary Arts Festival, important événement artistique qui se tient au Caire depuis 2012, ont été annulés à cause de la censure annoncée le festival. Les autorités de la censure ont exigé la suppression de 5 scènes de la pièce, a souligné le festival. Le metteur en scène, Ahmad Attar, a estimé que la pièce qui évoque l'Égypte d'avant la révolution de 2011 ne pouvait être présentée sans ces scènes. La troupe a demandé à la censure de réexaminer sa décision aujourd'hui. L'annulation de la pièce survient à un moment où les libertés sont de plus en plus étouffées en Égypte, à moins de 10 jours du début de l'élection présidentielle. Cœur.
Plus récente pièce de Karim Ouellet, ça s'intitule Les Roses, un extrait de son album 30.
En une du devoir de ce lundi de mars 19, pour être plus précise, présidentiel russe Vladimir Poutine pour 6 ans de plus. On a une photo de lui tout sourire. Nous allons travailler tout aussi dur d'une manière tout autant responsable et efficace, a promis dimanche Vladimir Poutine. Émissions de GES, gaz à effet de serre, des projets échappent aux tests climat. Théâtre, une jeunesse en quête d'héroïsme. À Paris, la nouvelle création de l'auteur libano-québécois Wajdi Mouawad raconte un deuil qui bouscule tout. C'est Philippe Couture qui écrit l'article. Il est à Paris. Jeux olympiques, paralympiques de Pyeongchang. Une récolte de médailles historique pour le Canada. Une application pour mettre en contact prostituées et clients. Fonds fédéraux, un retard à rattraper dans les projets de transport collectif au Québec. Intégration, les élèves immigrants sont plus motivés, mais réussissent moins bien. Les élèves immigrants sont plus motivés, mais réussissent moins bien. Dans les pays de l'OCDE, le désavantage socio-économique et la barrière de la langue constituent des obstacles majeurs à leur intégration. Les élèves immigrants de première ou de seconde génération sont généralement plus motivés à l'école que ceux qui sont nés dans le pays où ils étudient. Par contre, les élèves immigrants, particulièrement les immigrants de première génération, ont davantage de difficultés à l'école et sont désavantagés dans d'autres domaines influençant leur bien-être. Ils ont en général un sentiment moins développé d'appartenance aux institutions scolaires, éprouvent moins de satisfaction face à leur vie et sont plus anxieux au sujet de l'école. C'est ce que montre un rapport rendu public lundi par le Programme international pour le suivi des acquis aux élèves, PISA, de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, portant sur les immigrants étudiants dans 35 pays. 51%, c'est la proportion des élèves immigrants de première génération qui n'atteignent pas les critères minimaux en lecture, en mathématiques et en sciences, selon le rapport. Cette proportion est plutôt de 28% pour les élèves nés dans le pays où ils étudient. Des milliers de personnes ont bravé le froid dimanche après-midi pour assister au 195e défilé de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais à Montréal. Le vert et le trèfle irlandais, le Shamrock, étaient évidemment à l'honneur pour ce rendez-vous annuel festif. En raison des travaux menés sur la rue Sainte-Catherine, les 20 chars allégoriques et les 25 fanfares ont défilé sur le boulevard de Maisonneuve-Ouest cette année. Trudeau visé par des trolls russes. Un rapport du Congrès américain indique que l'agence qui s'est mêlée de la présidentielle de 2016 s'est aussi prise à des cibles canadiennes. Pardonnez-moi. La même pépinière à trolls russes qui s'était mêlée de l'élection présidentielle américaine s'en est aussi prise à des cibles canadiennes comme des infrastructures pétrolières et le premier ministre fédéral Justin Trudeau. Des preuves sont incorporées dans les données rendues publiques au cours d'enquêtes menées aux États-Unis. Le Congrès examine actuellement des renseignements provenant de Russie obtenus dans la foulée de l'élection de 2016. Le contingent que veut envoyer le Canada au Mali comptera un grand nombre de femmes, le gouvernement Trudeau voulant que le Canada montre l'exemple dans ce domaine. Selon une source gouvernementale, le contingent des forces armées devra compter de 200 à 250 militaires. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, doivent dévoiler aujourd'hui, lundi, les grandes lignes de l'intervention canadienne au Mali. 6 hélicoptères pourraient être déployés dans le cadre de cette opération de maintien de la paix dirigée par l'Organisation des Nations Unies. Sans surprise, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a été reporté au pouvoir pour un quatrième mandat dimanche avec plus de 76 % des voix selon les résultats partiels. Un scrutin qui a davantage pris les allures d'un vote de confiance envers l'homme, ses politiques et sa posture défiante face à l'Occident. « Nous allons travailler tout aussi dur, d'une manière tout autant responsable et efficace », a déclaré le président devant des centaines de partisans. Voyant dans sa victoire la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites dans des conditions très difficiles. Si 7 autres candidats se sont présentés à la présidentielle, ils n'ont réussi à récolter que quelques miettes. Pavel Groudinin du Parti communiste est arrivé loin derrière en deuxième place avec un peu plus de 12 % des voix. Il faut dire qu'après plus de 18 ans à la tête de la Russie, 14 comme président et 4 comme premier ministre, Poutine a su consolider son pouvoir et le contrôle de la politique en n'hésitant pas à jeter en prison ses plus fervents opposants. Parlons sport, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Jeux paralympiques, un record de médailles pour les athlètes canadiens. La délégation canadienne formée de 55 athlètes s'était fixé un objectif prudent de 17 médailles aux Jeux de Pyeongchang, soit une de plus qu'à Sochi il y a 4 ans. Mais les Canadiens ont surpassé les attentes plusieurs jours avant la conclusion des Jeux et leurs 28 médailles ont pulvérisé le record précédent de 19 établi aux Jeux de Vancouver en 2010. Les athlètes ont attribué la performance du Canada à l'esprit d'équipe et au noyau de jeunes athlètes très talentueux. Quelques semaines après avoir eu le cœur brisé aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Alex Harvey s'est repris en terminant sa carrière avec une médaille d'argent en poursuite de 15 km à la Coupe du monde de ski de fond de Fallon, dimanche. Harvey de Saint-Ferréol-les-Neiges a complété la distance en 35 minutes 50,4 secondes. Il n'a été devancé que par le Russe Alexander Bolchnov, vainqueur en 35 minutes 03,3. Boss en parallèle, Michael Kingsbury a couronné une saison de rêve en remportant la médaille d'or en boss en parallèle à la Coupe du monde de ski acrobatique de Megève en France dimanche. Kingsbury de Deux-Montagnes a vaincu en super finale le favori local, Benjamin Cavet, pour signer sa première victoire à cet endroit. L'Américain Bradley Wilson s'est octroyé la médaille de bronze après avoir pris la mesure du Suédois Ludvig Jalström en petite finale. Et le Canadien Charles Hamelin a remporté le titre cumulatif pour la première fois de sa carrière dimanche au championnat du monde de patinage de vitesse courte piste. Il est devenu le premier Canadien depuis Marc Gagnon en 1998 à accomplir cet exploit. Hamelin, qui est âgé de 33 ans et qui a annoncé plus tôt cette semaine qu'il reportait sa retraite d'au moins une saison, a d'abord ajouté le titre aux 1000 mètres à celui acquis la veille sur 1500 mètres à son palmarès. Il avait aussi terminé au 5e rang sur 500 mètres samedi grâce à une victoire en finale B. La locomotive de Sainte-Julie a ensuite fait le nécessaire en super finale sur 3000 mètres. Hamelin a terminé la compétition avec 81 points. En franchissant la ligne d'arrivée à la fin du 3000 mètres, Hamelin a levé les bras au ciel et a fait un signe de cœur à la foule qui l'acclamait. Il a ensuite sauté dans les bras de son frère François et de ses coéquipiers. Il a aussi fait l'accolade à son entraîneur Derek Campbell et à Marianne Saint-Gelais qui a pris sa retraite dimanche après une médaille de bronze aux 3000 mètres. « Merci d'écouter le quotidien des quotidiens sur Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Dans un petit moment après la pause et la chanson, il y aura pour vous la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal.
C'est une nouveauté, il s'agit de Bardot et la pièce « Enfin ».
Journal de Montréal, enquête, odeur de scandale dans les ordures à Montréal. La ville aurait payé pour ses voisins, contrat de 35 millions résiliés, caractère frauduleux, dit le Big. La ville de Montréal aurait été flouée par une compagnie de ramassage d'ordures qui l'a fait payer pour enfouir les déchets d'autres villes, dénonce l'inspecteur général Denis Galland dans un rapport choc qu'il vient de remettre à la mairesse Valérie Plante. Notre bureau d'enquête a appris que la firme Services environnementaux Richelieu Inc., donc SER, S-E-R, est dans la mire du gardien de l'intégrité à l'hôtel de ville. SER est payée depuis 2008 en fonction du poids des déchets qu'elle ramasse dans les rues des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest. Mais elle aurait réussi à passer sur le compte de la ville, et donc des contribuables montréalais, des ordures provenant aussi de Brossard, de Boucherville, de Carignan, de Saint-Basile-le-Grand, de McMasterville et de Belleuil. Dans un document qui conclut une enquête d'un an, Maître Galland ne mâche pas ses mots et affirme que les pratiques de cette firme revêtent un caractère frauduleux. Les malversations seraient si graves que le bureau de l'inspecteur général, Big, a décidé de résilier deux contrats de SER, donc des services environnementaux Richelieu Inc., totalisant plus de 35 millions, a alerté l'unité permanente anticorruption qui pourrait ouvrir une enquête criminelle, songe à contacter l'autorité des marchés financiers qui pourrait devoir décider si l'entreprise aura le droit de conclure d'autres marchés publics. Pour découvrir le poteau rose, le Big a notamment pris en filature des camions de SER, S-E-R, utilisé des preuves GPS et mis la main sur des bordereaux de vérification incomplets ou trafiqués. C'est malheureux parce que c'est de la fraude, tout simplement. Si c'est avéré, c'est une compagnie qui a fait une double facturation. Donc, c'est du vol auprès de l'arrondissement. C'est du vol, en fait, auprès des citoyens qui paient des taxes, vous et moi, estime Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Le Big n'est également pas tendre envers la Ville de Montréal, qui l'accuse d'avoir été négligente dans sa surveillance de l'entrepreneur. Elle doit socio-financer les obsèques de sa sœur. La femme déplore que la prestation du gouvernement ne soit pas suffisante. « Ce sont les derniers moments d'intimité avec ma sœur que j'ai l'impression de devoir vendre au public, juste pour qu'on puisse lui offrir une fin décente », soupire Josée Thibodeau, 45 ans. Sa sœur Joanne, 63 ans, vit ses derniers jours dans un centre de soins palliatifs de la Rive-Sud. Avec son salaire de 11,75 $ de l'heure à titre de commis dans un CHSLD, où elle a travaillé pendant 20 ans, la dame originaire de Montréal n'a jamais vraiment eu la chance d'économiser ni de se procurer une assurance vie. Sa sœur, qui a arrêté de travailler il y a plus d'un an pour prendre soin de son père maintenant mort, ne peut lui venir en aide financièrement. Elle s'est donc résignée à lancer une campagne de sociofinancement sur Internet. « On n'a jamais vraiment été des gens qui demandaient de l'aide. » C'est un peu plié sur notre orgueil que de faire ça. Pour plus de détails sur la campagne, www.gofundme.com/pour-que-Joanne-parte-en-paix. Le cas de Josée Thibodeau est le reflet d'une triste réalité pour la société québécoise, estime la Corporation des thanatologues du Québec, qui rappelle qu'entre 30 et 40 des familles disposent uniquement des 2 500 $ offerts par Québec pour payer les frais funéraires de leurs proches. C'est la triste réalité de nos jours, déplore la directrice de l'association professionnelle Annie Saint-Pierre. Malheureusement, le gouvernement prend soin de nous quand on vient au monde, mais beaucoup moins quand on arrive à la fin d'une vie. Et les gens ne sont pas assez conscientisés à cette problématique, ajoute le président de la corporation Denis Desrochers. Selon lui, les salons funéraires font leur possible pour offrir les meilleurs prix aux familles endeuillées qui manquent de fonds, mais ils sont toutefois limités par certains frais fixes. La France insultée par un fromage d'ici. Ce n'est pas du camembert, c'est un fromage industriel sur lequel on a mis le mot camembert, a lancé le critique gastronomique français Perico Légas sur la chaîne LCI. Le camembert L'Extra, produit à Saint-Hyacinthe par la coopérative Agropur, s'est imposé face à 17 autres produits concurrents lors du World Championship Cheese Contest qui se déroulait la semaine dernière au Wisconsin aux États-Unis. Cette compétition mondiale est présentée comme la plus importante du genre. Meilleur au monde, un camembert québécois dérange. Le fromage québécois a ainsi surpassé Lisigny, un camembert réputé de Normandie considéré comme la référence en la matière. Ce qui semble le plus contrarier les habitants de l'Hexagone, c'est que l'extra a été élaboré avec du lait pasteurisé et non cru, comme le veut la tradition. deux ans, les surplus bondissent de 250. Les commissions scolaires voient leurs coffres se garnir après des années de déficit. Le président de la Fédération des commissions scolaires relativise toutefois les montants. C'est sûr que ça semble être un gros montant, reconnaît Alain Fortier, mais en même temps, le budget de l'école publique, c'est 11 milliards de dollars. Je dirais que c'est de la saine gestion et non pas énormément de surplus, ajoute-t-il. D'ailleurs, la situation varie d'un territoire à l'autre. Invité à commenter, le cabinet du ministre de l'Éducation a souligné que le surplus d'exercice des commissions scolaires s'explique principalement par une augmentation des revenus provenant des biens et services, dont la location de salles et autres services tarifés, par les commissions scolaires. Ceux-ci ont rapporté quelque 55 millions en 2016-2017. La Fédération des commissions scolaires demande au gouvernement du Québec de permettre à ses membres d'utiliser les surplus en service aux élèves. Pour le moment, les commissions scolaires peuvent seulement utiliser 15 % de leurs excédents budgétaires. Un motoneigiste a succombé à ses blessures hier après une embardée survenue sur un sentier de motoneige à Amos. L'homme aurait perdu la maîtrise de son engin pour aller percuter un arbre. Il a été éjecté de sa motoneige sous la force de l'impact. Il est décédé peu de temps après son arrivée au centre hospitalier. L'homme, âgé de 31 ans, se promenait seul au moment de l'accident sur un sentier situé à proximité du chemin Lemerise. Et investi sans opposition comme candidat de Québec solidaire dans la circonscription montréalaise de Gouin hier, Gabriel Nadeau-Dubois ne croit pas que sa réélection comme député provincial soit dans la poche. Pour Québec solidaire, les châteaux forts n'existent pas. « Je ne tiens donc rien pour acquis », a mentionné celui qui agira comme organisateur en chef de la campagne électorale de sa formation pour les élections d'octobre prochain. GND, donc Gabriel Nadeau-Dubois, a été élu député en mai dernier.
Toutes les balises sont moi.
s'aimera, c'est le titre du plus récent extrait de Fanny Bloom qu'on vient d'entendre. Fanny Bloom, que vous aurez le plaisir d'entendre dans une prochaine émission de Studio M, où elle sera l'invitée de Mathieu Caron. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site web pour avoir les détails de diffusion de cette émission, sinon Studio M le samedi à 9h.
La chronique de Mylène Moisan, très émouvante, qui fait aussi la une de la presse d'aujourd'hui, intitulée « Léa Rose aura toujours un an ». Une petite bosse violacée sur le bras droit de Léa Rose, un peu comme un bleu, mais qui ne part pas. Marie-Pierre Rivard va voir le médecin. « Pas grave, madame, elle a dû se cogner. » C'était grave, c'était la pointe de l'iceberg et l'iceberg, un cancer. Léa Rose a une leucémie myéloblastique, une forme rare entre 5 % à 10 % des leucémies diagnostiquées chez les enfants. Le verdict tombe le 17 juillet 2013. La maladie est agressive, la partie est loin d'être gagnée. Léa Rose a 9 mois. La petite ne retourne pas à la maison, elle reste au CHUL où elle devra recevoir un traitement de chimiothérapie intensive pendant 6 mois. Les médecins sont confiants. Marie-Pierre est à son chevet presque 24 heures sur 24. Elle dort sur une petite banquette à côté du lit de sa fille. Léa Rose fait ses premiers pas le 3 octobre. 10 jours plus tard, on fait une fête pour son premier anniversaire, avec un gâteau et tout. Le 20 octobre, une semaine après sa fête, Léa est plus moche que d'habitude. Je suis inquiète, je connais ma fille, je sais que quelque chose ne va pas, ça c'est certain. Elle tourne difficilement sa tête, on dirait comme si elle avait un torticolis. Je n'aime pas ça, mais ces médecins ne seront là que le lendemain matin. Le verdict tombe le lundi. Léa Rose a une masse au cerveau de la grosseur d'une orange. Il n'y a plus rien à faire. On ne lui donne que quelques heures à vivre. Nous avons passé la nuit, les trois ensemble. Je ne pouvais pas me séparer de sa petite main dans la mienne. Et de me mettre l'autre main sur son cœur, tellement je craignais le moment où ce petit cœur que j'avais fabriqué cesserait de battre pour toujours. La petite a passé la nuit. L'équipe du CHUL a proposé à Marie-Pierre et à son chum de ramener leur petite Léa à la maison. Léa a fait une belle longue semaine à la maison avec nous. Une semaine où il nous a été permis de faire face, d'accepter, entre guillemets, un tant soit peu de la laisser partir. Une semaine pour l'aimer, la cajoler, la bercer. Léa Rose est partie le matin du 28 octobre à 1 an et 14 jours à peine. Ce matin du 28 octobre, il a neigé. Je m'en rappellerai probablement jusqu'à mon dernier souffle. Elle est partie en douceur, représentative d'elle-même, sans douleur, le sourire aux lèvres. Elle l'a habillée de sa plus belle robe. Et une partie de Marie-Pierre est morte aussi ce matin-là. Je ne le savais pas encore, mais c'est de moi qu'il allait falloir que je m'occupe. Me reconstruire, apprendre à vivre avec sa perte. C'est surtout pour ça que Marie-Pierre m'a raconté son histoire. C'est aussi pour ça que je vous la raconte, pour l'après. Marie-Pierre est allée chercher de l'aide, une thérapeute du deuil qu'elle consultait une à deux fois par semaine qui lui demandait d'écrire comment elle se sentait. Pour survivre aux fêtes, Marie-Pierre et son chum sont allés dans un tout-inclus au Mexique. Mais en voyant tous ses enfants s'amuser, elle a craqué. Cette semaine-là a été dévastatrice. J'étais assise sur la plage, je voyais des enfants partout, je pleurais. J'ai pensé à de pas belles choses. Au retour, elle est allée en thérapie un mois, fermée. Elle s'est raccommodée tranquillement. J'ai réalisé que mon estime de soi avait baissé. Je n'avais plus ma fille à m'occuper. Perdre un enfant, c'est perdre une raison de vivre. Il faut en trouver d'autres. Elle a eu Sophia en avril 2015. On ne l'a pas eue pour remplacer Léa Rose. On a toujours voulu d'autres enfants. Mais quand Sophia a eu 9 mois, ça a été difficile. C'est l'âge qu'avait Léa quand elle est tombée malade. La première année, je comparais Sophia à Léa. Et là, c'est l'inverse. Je me demande, est-ce que Léa Rose aurait été comme ça? Son couple a survécu. On a vécu ça différemment, mais on s'est complété. J'étais plus proche de mes émotions et lui était plus cartésien. Mais il est tout de même allé consulter. On se dit que si on est passé au travers de ça ensemble, on peut faire un sacré bout de chemin. Ils se sont mariés il y a 2 ans. On s'était dit, quand Léa Rose était à l'hôpital, si elle s'en sort, on se marie. Quand Marie-Pierre est retournée au boulot, à la police de Québec, elle avait changé. Je ne suis plus la même policière qu'avant. Ça a clairement changé ma pratique, particulièrement pour ce qui est de l'empathie avec les cas de santé mentale, qui sont à peu près 75 % des cas. Elle comprend la détresse, le trou noir. À 30 ans, elle profite plus que jamais des petits moments. Quand ma fille me demande de jouer avec elle et que je suis occupée, j'essaie de tout laisser pour passer du temps avec elle. C'est quoi 15 minutes dans une journée? Notre monde va si vite, le moment présent est souvent oublié. Et voilà qu'elle attend un troisième enfant, au début de l'été. Elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, et comme toutes les femmes enceintes, elle se fait demander si c'est son premier. Je dis que c'est ma troisième grossesse et que ma première fille aurait 5 ans. Elle fait partie de notre vie. Je ne peux pas ne pas en parler, même si parfois ça crée un malaise. Elle en parle aussi à Sophia, qui aura bientôt 3 ans. On lui dit qu'elle a été malade, qu'elle est au ciel avec grand-papa Claude. On va au Columbarium voir Léa Rose à sa fête pour souligner sa naissance plutôt que son décès. Elle est dans une petite urne rose avec un toutou. Dans la tribune, Tommy Brochu, la Maison des jeunes portera le nom de Serge Forêt, l'ancien conseiller municipal dans Rock Forest. Serge Forêt a eu droit samedi à un brillant hommage à la Maison des jeunes qu'il a fait construire il y a plusieurs années. Cette Maison des jeunes portera désormais son nom. Monsieur Forêt semble touché par le geste. C'était vraiment inattendu. C'était une fête surprise qu'ils m'ont faite. J'ai été honorée par le conseil de la Maison des jeunes et par plusieurs de mes amis. Je l'ai su 10 minutes avant d'arriver. C'est un beau cadeau, un hommage qui m'a fait extrêmement plaisir. Je n'ai jamais travaillé pour cela, poursuit-il. J'ai travaillé pour les jeunes et pour la communauté. Je ne pensais pas recevoir un hommage aussi grand de la part de la communauté de Rock Forest, Saint-Élie et Deauville, a admis celui qui a pris sa retraite de la vie politique en 2013. Monsieur Forest tenait quand même à partager le crédit. Je n'ai pas fait ça tout seul. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été impliquées dans ce projet. « Naturellement, la communauté m'a toujours soutenu », indique-t-il. Même s'il combat actuellement un cancer, Serge Forest s'informe et suit la politique municipale quotidiennement. On n'a pas sorti la politique du gars encore. Par contre, je ne suis plus impliqué. Je m'occupe de ma santé et de ma famille. Je suis atteint d'un cancer depuis 2014. Je suis mes traitements. Il y a de bonnes journées et des moins bonnes. Ces temps-ci, ça va bien, tout est sous contrôle, rassure l'ancien politicien. Celle qui a pris le siège de M. Forest en 2013, Annie Godbout, tenait à être présente à l'hommage de son prédécesseur. C'était une soirée près de sa personnalité. C'était simple et touchant. M. Forest était un homme engagé, affirme-t-elle. Serge Forest s'est battu pour que Rock Forest ait sa maison des jeunes, se rappelle Mme Godbout. Ils avaient fermé la maison des jeunes dans le parc Mi-Vallon à cause du grabuge. Serge a été interpellé et a dit qu'il en fallait une. Ils ont donc fait une maison des jeunes à côté du poste de police. M. Forest est allé chercher le financement. Il est allé chercher une mise de fonds de 60 000 $, alors que l'objectif était de 50 000 $. C'est un homme qui était très près des jeunes, lui qui a travaillé à Val-du-Lac, a commenté l'actuelle conseillère municipale. Matelas René en mode solution, c'est dans le Nouvelliste, Gabriel Delisle, au lendemain de l'incendie qui a totalement ravagé une de leurs usines à Nicolette. La direction de Matelas René élaborait des solutions dimanche. La production des pièces de métal réalisées à cet endroit sera temporairement assurée par un fournisseur de Matelas René. Nous avons trouvé un fournisseur qui peut nous acheminer les pièces que nous avons besoin, dont nous avons besoin. Cela permettra alors à notre production de matelas de se poursuivre normalement, affirmait dimanche par téléphone le propriétaire de Matelas René, Jacques René. Bien qu'il a évoqué la reconstruction de l'usine incendiée, le chef d'entreprise ne pouvait toutefois en dire davantage ce week-end. Ces installations de Matelas René, une entreprise qui exploite aussi les boutiques au lit, étaient utilisées comme entrepôt et pour la fabrication de ressorts. Deux employés travaillaient à cet endroit. Le bâtiment du parc industriel de Nicolet, ravagé, était aussi utilisé par les entreprises Jean-Marc Landry. L'entreprise louait de l'espace à Matelas René. Les pertes de cette deuxième entreprise, qui employait aussi deux personnes, s'élèveraient à près de 600 000 $. Des soumissionnaires ont remporté ces derniers mois des appels d'offres gouvernementaux pour des Computers and Peripherals for the Department d'affaires autochtones, des Generators, Entretiens, ainsi que des XXXXX French Here, XXXXX, et j'en passe. Alors, c'est dans le droit d'aujourd'hui, mais on en parle dans tous les journaux, sous la plume de Mélanie Marquis pour la presse canadienne. En revanche, le gouvernement cherchait toujours à la mi-mars des fournisseurs pour les besoins en alimentation, alimentation A-L-I-E-M-A-N-T-A-T-I-O-N, dans des établissements correctionnels de l'Ontario pour des d'alarmes personnels portatifs, d'alarmes donc D-A-L-A-M-A-R-M-E, et pour l'évacuation d'un hélicoptère H-E accent aigu L-I-C-O-P-T-E accent grave, R, sous l'eau. Formation. Alors, ces appels d'offres qui figurent sur la version française d'un site du gouvernement du Canada ne représentent qu'une fraction des cas de traduction bancale recensés par Chantal Carré, ex-employée politique du NPD, aujourd'hui étudiante en droit à l'Université d'Ottawa. Si certains collectionnent des timbres, des pièces de monnaie ou encore des œuvres d'art, Mme Carré, elle, collectionne les perles linguistiques. Ici Hélène Denis, merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens. À venir la dernière demi-heure avec les actualités culturelles et les sujets libres.